France Culture.
Ça fait du bien.
Ça fait énormément de bien de pouvoir venir au boulot et pas mettre de masque.
Toujours un peu de prudence peut-être quand même.
Alors, toujours un peu de prudence au niveau de la circulation de l'air, au niveau des gestes barrières comme ne pas se faire la bise, ne pas se serrer la main, le lavage de mains régulier et tout ça. Mais par contre, c'est vrai que le masque, on est content de l'enlever.
Oui, parce qu'ici, dans les Bouches-du-Rhône comme ailleurs, on observe un rebond du nombre de contaminations. Hein. Le taux d'incidence, moins de 600 cas pour 100 000 habitants.
Ah oui, moi je me rappelle très bien du dernier cas qu'on a reçu, un grand monsieur même, et qui se retrouvait tout seul dans la dernière unité dédiée complètement au Covid, et cette sensation que ben voilà, on arrivait à la fin de quelque chose aussi, et que peut-être la vie normale de notre service allait reprendre. Ça n'a jamais été exactement pareil qu'avant, mais voilà, on est retombé sur quelque chose qu'on connaissait un peu mieux, et des dimensions aussi surtout, qu'on maîtrisait mieux.
Il y a 3 semaines au Sénat. Il faudrait qu'on redescende aux alentours de 1500 patients Covid en réa.
Covid-19, une pandémie sans fin. Un documentaire de Christelle Le Polothek et Véronique Samouilly. Dernier épisode, le monde d'après.
Et là aussi, je pense qu'on l'atteindra d'ici 2 à 3 semaines maximum.
Et moi, j'ai un souvenir de l'arrêt de tout, du jour où il n'y a plus de Covid. On reprend normalement,
mais avec des hôpitaux pas débordés et un taux de vaccination.
Il y avait beaucoup de gens qui disaient ça, qu'on passait dans le monde d'après. Mais parce qu'effectivement, moi, ce qui m'a frappé dans cette séquence 2020, c'est comment tout ce qui apparaissait fictif dans les constructions scientifiques et politiques que j'étudiais devenait réel.
Bonjour Mathilde, bonjour à tous. Des visages en entier dans le métro, le train, l'avion. C'est la fin ce matin du masque obligatoire dans les transports publics.
Dernière petit à petit, sans qu'on s'en rende vraiment compte, au cours du printemps 2022... La crise s'est terminée. Plus de confinement, de couvre-feu, fin du pass vaccinal et du masque obligatoire, levée des gestes barrières, enfin, on pouvait entrer dans le monde d'après. Enfin, pas tout à fait, puisque dès le mois de juillet, les contaminations reprennent, mais désormais on n'annonce plus le nombre de nouvelles infections à la télé, et on ne compte plus non plus le nombre de vagues. Après avoir pris toute la place pendant plus de 2 ans, le Covid a disparu de nos vies, presque du jour au lendemain, comme le raconte Héloïse Langlois, directrice d'école.
Du jour au lendemain, nous n'avions plus, en tant que directeur d'école, à vérifier les tests. On n'était plus habilité à ça, alors qu'on nous avait demandé de l'être, sans plus de formalité que ça, ni d'explication que ça. Hein. Donc on s'est adapté tout le temps à tout. Et moi, j'ai un souvenir de l'arrêt de tout. Du jour où il y a plus de Covid. On reprend normalement, comme ça. Et il m'a fallu 1 ou 2 mois de travail pour me dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre, c'est pas comme d'habitude. Et ce qui se passait, c'est simplement que j'avais plus d'histoire de Covid à gérer. C'était simplement la vie d'une école. Il y avait plus de classes à fermer, de messages d'urgence. Mais c'était très troublant parce que on était seuls avec des informations contradictoires. C'était l'urgence, vraiment, mais l'urgence tous les jours. C'était pas uniquement le jour de la fermeture de l'école, c'était l'urgence tous les jours jusqu'au jour où, ça y est, il n'y a plus d'urgence, il n'y a plus rien. Voilà, donc on était très seuls.
C'est à l'Institut Pasteur que nous avons retrouvé Arnaud Fontanet, épidémiologiste, membre du Conseil scientifique et co-auteur d'une étude en forme de bilan sur la crise Covid. Nous lui avons demandé comment avait été décidée la fin de l'épidémie en France.
Décréter la fin de la Covid, c'était plutôt dire, à partir de maintenant, on n'est plus dans une situation où la reprise de l'épidémie pourrait mettre en danger les hôpitaux en termes de saturation et qu'on pourra donc revenir à un fonctionnement un peu plus habituel comme on l'a pour d'autres virus hivernaux. Il peut y avoir des tensions dans les hôpitaux, mais pas un moment où le système est complètement dépassé. Et cette période de fin juillet 2022, ça coïncidait avec la fin de l'état d'urgence. Je vous disais qu'en 2022, il y avait eu 40 000 morts. À titre de comparaison, la grippe, c'est en moyenne 10 000 morts par an. Ça va de 3 à 17 000 selon les années. On n'a pas encore les chiffres de 2023. Je pense qu'on sera plutôt, là je me trompe peut-être, autour de 20 000 morts. Mais voyez, c'est pour vous dire que la Covid tue plus que la grippe encore. Et donc, on ne peut pas parler de la fin de la Covid. En fait, la Covid va continuer à faire partie de ces virus qui aujourd'hui sont capables de circuler tout au long de l'année. Il n'a pas pris un caractère franchement saisonnier hivernal comme la grippe là déjà pour un pays comme le nôtre.
Ce qui est très curieux, c'est que
Nicolas Mario,
l'État semble avoir abandonné par rapport à cette période, c'est très frappant, toute politique publique de gestion de cette pandémie. Donc on sait que le virus circule encore, on sait qu'il y a des mesures, notamment des eaux usées, qui peuvent être données pour évaluer la circulation du virus. Mais tout se passe comme si, hein, autant il n'y a pas eu non plus de débat sur les politiques sécuritaires qui ont été mises en place dans ce premier confinement, après coup, nulle part dans l'espace public. De même, il n'y a plus de politique publique d'État aujourd'hui vis-à-vis de la pandémie, et c'est à coup sûr un énorme problème.
Quand on fait le bilan de toute cette crise,
Jean-François Delfrécy,
au plan sanitaire, il y a deux façons de marquer les chiffres. Soit on dit la mortalité liée au Covid, soit la perte d'espérance de vie. La perte d'espérance de vie permet de compter les morts liées au Covid et les morts qui sont non liées au Covid, qui auraient pu être accentuées si on s'est, par exemple, on s'est trop occupé du Covid, on n'a pas suffisamment pris en charge les infarctus du myocarde, les cancers, etc. Bon. Donc le bon chiffre, en fait, pour les épidémios, c'est plutôt la perte d'espérance de vie d'un pays. La France perd moins 3,5 mois. L'Allemagne perd moins 4 mois. L'Angleterre perd moins 9 mois, parce qu'ils ont confiné très tard. L'Italie perd aussi moins 9 mois, parce qu'ils ont eu cette première vague extrêmement lourde. Le Danemark perd moins 1,5 mois, il fait mieux que nous. Le Pays-Bas aussi, mais c'est des plus petits pays, c'est bon. Mais enfin, ils font mieux que nous. Les États-Unis perdent moins 2,5 ans. Vous voyez la différence, hein ? Donc, ça montre bien que notre système français, sur lequel on tire à boulets rouges en permanence, est un système solide. On peut toujours faire mieux, bien sûr. Mais qui permet l'accès aux soins pour les plus faibles, y compris dans des situations un peu dramatiques.
Le coronavirus est un virus qui s'attrape très facilement. Il fait tousser, éternuer, il fatigue, donne de la fièvre et mal à la tête. Si tu l'attrapes, ne t'inquiète pas. On s'occupera de toi jusqu'à ce que tu sois guéri.
Est-ce qu'on peut tout d'abord revenir sur les chiffres de la crise du Covid ?
Nous venons effectivement de publier les résultats d'une analyse que nous avons menée avec 13 pays d'Europe occidentale.
Arnaud Fontanet.
Alors, on a en fait appris 3 leçons de cette analyse. La première, c'est que les pays qui ont pris des mesures fortes très tôt sont les pays qui ont eu le meilleur bilan humain. Et finalement, les pays qui ont pris des mesures très tôt sont également ceux qui ont eu le meilleur bilan économique, au sens où la baisse du produit intérieur brut a été moins importante dans ces pays comparée à leurs voisins. Bien, finalement, ce qu'on constate dans cette étude, c'est que des pays qui ont tardé à prendre des mesures se sont retrouvés enfermés dans un cycle où leurs hôpitaux étaient saturés de patients, où il fallait maintenir ces mesures plus longtemps pour protéger les hôpitaux, et de fait ont eu à terme une perturbation de leur vie sociale beaucoup plus longue que des pays qui ont pris des mesures très précoces et qui, du coup, ont moins souffert économiquement. Le troisième enseignement qu'on a eu de cette étude est que pour que finalement des populations acceptent des mesures aussi précoces, alors que les hôpitaux sont en fait très peu sollicités, il faut qu'il y ait une confiance forte des populations dans leur gouvernement, dans leurs institutions.
En moyenne, notre main entre en contact avec notre visage jusqu'à 3000 fois par jour. Or, le nez, les yeux et la bouche sont des portes d'entrée privilégiées pour les virus et les bactéries. Et le coronavirus n'échappe pas à cette règle.
Cette confiance envers les politiques, les scientifiques ou encore les médias a été particulièrement mise à mal tout au long de la crise Covid. Mais si la gestion de la crise a créé de la défiance, cela ne veut pas dire pour autant que le lien est rompu. Pour François Crémieux, directeur de l'APHM, les hôpitaux de Marseille, la situation est beaucoup plus nuancée.
Quand j'entends la critique sur le système de santé ou sur l'hôpital, on a d'un côté des patients, et notamment les plus graves d'entre eux, qui sont plutôt extrêmement reconnaissants au système et qui trouvent qu'on est dans un pays dans lequel, entre l'accès aux soins, le financement solidaire, l'accès aux molécules, aux médicaments, à l'hôpital, etc., mais je trouve qu'on garde une très grande confiance de la part des patients. Par contre, c'est vrai que parmi nos concitoyens, ceux qui n'ont pas été les plus malades ou ne sont pas aujourd'hui en lien direct avec le système de santé, sont souvent inquiets. de ce qu'est un système de santé dont ils n'ont pas forcément usage au quotidien. Et ça, je pense effectivement que la crise Covid a probablement exacerbé cette défiance-là. D'une part, je pense qu'on a perçu qu'on était une société beaucoup plus fragile qu'on ne le pensait probablement. Fragilité à la fois sanitaire, mais également fragilité économique, fragilité démocratique sur la manière de prendre des décisions. Donc je pense que cette fragilité, elle a été perçue par beaucoup de monde, à la fois par les décideurs, mais également par l'ensemble de nos concitoyens. Puis d'autre part, il y a des décisions qui ont été prises dont on sait a posteriori qu'elles n'étaient pas totalement rationnelles, dont on a cru a priori qu'elles étaient les bonnes. Par exemple, le port du masque à l'air libre, etc., qui sont des décisions qu'on prendrait sans doute différemment aujourd'hui si la même épidémie se présentait de la même manière. Et puis tout ça s'inscrit dans un contexte dans lequel le Covid n'est pas arrivé complètement à n'importe quel moment de la vie de nos sociétés, de nos démocraties, et où par ailleurs on a des facteurs de fragilité indépendants de l'épidémie elle-même et de la période du Covid, avec des démocraties qui vont moins bien aujourd'hui qu'il y a quelques années, le retour de la guerre en Europe, etc., qui font que par ailleurs les éléments qui sont des éléments de déstabilisation de la confiance qu'on peut avoir à la fois les uns avec les autres ou les uns avec nos décideurs ou nos politiques, ne sont pas simplement de la déstabilisation liée au Covid, mais se cumulent à d'autres, et probablement que l'élection récente aux États-Unis montre que les facteurs de déstabilisation ou d'incertitude se cumulent les uns aux autres, et le Covid en a été un.
Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Saluez sans serrer la main et évitez les embrassades.
Daniel Benamouzik, dans quelle mesure cette crise a exacerbé la méfiance d'une partie de la population vis-à-vis de l'autorité, des autorités, qu'elles soient scientifiques, politiques ?
Je pense qu'on paye aussi un rapport aux inégalités, qui est aussi une manière d'alimenter cette forme de défiance, d'incompréhension de ce qui se joue dans des strates supérieures. Voilà, il faut pas oublier qu'on sortait de la crise des gilets jaunes, qui était aussi une forme de mise en question d'élite. Mais je crois qu'il y a aussi des éléments qui se sont révélés pleinement pendant l'épidémie. Les médias, de mon point de vue, ont joué un certain rôle en donnant la parole sur un pied d'égalité à des positions qui, en réalité, sur le plan scientifique, étaient d'emblée extrêmement minoritaires. Et en faisant comme si, ben, c'était des options scientifiques, comme on a des opinions politiques. Et donc ça, je pense que ça a nuit sur le statut même de ce qu'est la connaissance, en fait, et de son statut. Tout ça renforcé par la dynamique des réseaux sociaux, renforcé aussi, il faut bien le dire, par des formes de positionnement partisan et politique, par des formations plutôt populistes, pour faire court, hein, mais qui ont joué un jeu politique sur l'épidémie.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein d'un comité scientifique, on a profité du fait qu'on avait des outils qui nous permettaient de communiquer comme jamais auparavant en temps d'épidémie.
Arnaud Fontanet.
Je passais 3 heures sur Twitter chaque jour. Je suivais 50 scientifiques du monde entier, hein, qui étaient ceux qui étaient identifiés comme les plus compétents en épidémiologie, immunologie, virologie, recherche clinique, etc. 1h30 le matin, hein, 6h30 à 8h, je faisais le plein d'infos. Et je faisais le soir, 10h30 à minuit, je bouclais ma journée en me nourrissant de toute cette information partagée en temps réel. Donc c'était très riche en informations. Mais ce que je peux vous dire, c'est que 95% de la communauté scientifique, on était d'accord sur tous les sujets. Dans les grandes lignes, il y a peut-être des trucs sur lesquels ça accrochait un peu, hein, la question de la transmission, et notamment le rôle des aérosols a été effectivement un des points qui a été difficile, hein, pour la communauté scientifique. Mais sur l'ensemble des autres questions, on était quand même très très en phase. Et c'est vrai que ce n'est pas l'image peut-être que la population française a eue, parce qu'ont été mis en avant d'autres personnalités qui avaient des avis différents et qui ont pu faire penser qu'il y avait des discordances dans la communauté scientifique. Mais j'ai envie de dire que le gros de la communauté scientifique, on était vraiment tous sur les points importants en accord ou capable de dire sur ce sujet, on ne sait pas encore et il faudra attendre pour se faire une opinion.
Ces gens qui étaient perdus, qui étaient paumés, qui étaient enfermés chez eux.
Christian Lehmann.
Ils entendaient dans ces émissions de faussaires et de fake news des trucs qui leur donnaient l'impression de comprendre ce qu'on leur cachait. Et ça a généré un très très fort mouvement anti-Covid et ensuite anti-vax. Et ces gens, ils ont été mis en danger.
L'autre question aussi, à mon avis, c'est défiance par rapport aux sources légitimes d'information.
Frédéric Keck.
Les gens se sont tournés effectivement vers des sources d'information alternatives. Les théories complotistes ont essaimé dans la société avec des vrais moments de basculement pour beaucoup d'individus. Et donc ça, c'est effectivement la question de la défiance va être celle à laquelle il va falloir s'affronter pour surmonter ce traumatisme, parce que c'était quand même un traumatisme, à la fois pour ceux qui en ont été la victime et pour ceux qui ont été confinés et qui n'ont pas compris ce qui leur est arrivé.
Je pense qu'il faut aussi se guérir de l'idée de l'expert comme personne qui maîtrise tout le contenu des sciences et qui est une personne unique, souvent un homme d'ailleurs.
Mathias Girel.
Voilà, l'expertise, elle est souvent collective, elle peut être nuancée, tout le monde peut ne pas être totalement d'accord, il peut y avoir différents scénarios, et ça c'est précieux quand on est dans des périodes d'incertitude. Voilà, la période, c'est aussi une expérimentation sur l'ignorance et l'incertitude face à un enjeu majeur, et peut-être que parfois produire trop tôt de l'incertitude n'est pas la bonne recette. Parfois communiquer sur ce que l'on ne sait pas encore peut être assez intéressant, sinon on reste dans un modèle qu'on appelait autrefois le modèle linéaire, c'est-à-dire une fois que la science est stabilisée, une politique publique et une seule en découle. Or, ce n'est jamais comme ça.
Bernadette Benceau-de-Vincent, vous êtes philosophe. La crise du Covid a révélé une crise de défiance, on pourrait dire, vis-à-vis du scientifique, d'une partie de la population.
Oui, la critique et le conflit a toujours été là, de toute façon, tout au long du XXe siècle en tout cas, où on a, d'une certaine manière, considéré que toutes les personnes qui s'opposaient au progrès scientifique et technique étaient irrationnelles, crédules, ne comprenaient rien. C'est ce que on appelle dans le jargon des sociologues le modèle du déficit, c'est-à-dire qu'on définit le public négativement comme ne comprenant rien à la science, et comme il comprend rien à la science, évidemment, il n'approuve pas. Et donc, en revanche, il suffirait qu'on l'instruise pour qu'il approuve. Et ce modèle a fait long feu et il a été remplacé à la fin du XXe siècle par tout un courant plutôt science citoyenne où on a enfin reconnu que le public a un jugement qui peut exercer sur les avancées scientifiques et techniques. Mais ce statu quo qui était quand même bien engagé a complètement basculé autour de 2015-16, avec l'élection de Donald Trump. Parce que là, il y a eu de telles attaques contre l'expertise scientifique que les relations se sont beaucoup tendues. On a commencé à parler de post-vérité, d'ère de post-vérité, à décréter que la science et la raison étaient en danger et qu'il fallait à tout prix lutter contre cette vague nouvelle d'irrationalisme qui a été fortement encouragée par les réseaux sociaux, qui ont quand même développé et répandu des informations fausses qui circulent souvent plus vite que les informations vraies.
Parallèlement, va émerger, en tout cas c'est le terme qui a été utilisé assez vite, je crois, par l'OMS, la notion d'infodémie.
Oui, qui est utilisé
Mathias Girel.
Dès février, mais elle l'avait été auparavant à propos d'autres épidémies, par l'OMS, pour dire on ne se bat pas seulement contre une épidémie, donc sous-entendu portée par le virus, mais aussi contre une infodémie, donc un problème lié à l'information et qui est une notion assez polysémique. Ça peut être soit la contagion des croyances, et donc les croyances se transmettraient un petit peu comme le virus se transmet, et puis il y a un deuxième sens là-dessus qui est que la panique informationnelle risque d'aggraver les résultats de l'épidémie biologique, si j'ose dire.
Tout est bon aujourd'hui pour essayer de réconcilier un petit peu l'opinion publique et la science.
Bernadette Benceau-de-Vincent.
L'important, c'est de faire apparaître la science comme étant l'autorité qui guide les décisions politiques. Parce que c'est ça le fondement des régimes démocratiques en Occident, du moins. C'est-à-dire que la raison, qui est en général incarnée par les vérités scientifiques, et ce qui guide les décisions politiques et non pas les intérêts religieux ou les intérêts particuliers, économiques ou de pouvoir. Et c'est pour ça que cet appel à l'expertise est considéré comme vraiment le fondement des démocraties. D'où la panique quand les politiques eux-mêmes refusent l'expertise, ce qui est le cas de Donald Trump, de Bolsonaro au Brésil, etc. Et cela, ça a vraiment enflammé une sorte de nouvelle croisade rationaliste. Il s'agit non seulement de sauver l'autorité scientifique, mais de sauver la démocratie en péril. Et c'est ce qui est toujours à l'œuvre aujourd'hui dans la crise climatique. Et de dénier l'évidence scientifique ou la vérité scientifique, c'est quelque chose qui est insupportable dans nos pays.
À partir du premier déconfinement, à partir de mai-juin 2020,
Jean-François Delfraissy,
le Conseil scientifique avait réclamé la constitution d'un comité citoyen auprès du Premier ministre qui aurait dialogué avec nous dans le cadre de la construction de démocratie en santé, c'est-à-dire de faire mieux participer les citoyens, sinon aux décisions, à l'application des décisions qui auraient pu être prises. Et nous l'avons réclamé à plusieurs reprises et finalement le gouvernement ne l'a pas fait. Je pense que c'est un tort, c'est un tort politique. On prend des décisions, on vous explique pas suffisamment pourquoi on les prend, alors qu'ils avaient toute la possibilité d'expliquer. Bon, ça aurait été une bonne occasion de le faire. Alors à l'inverse, dans beaucoup de grandes villes françaises, beaucoup de villes d'ailleurs pilotées par les Verts, disons-le, mais pas que, ils se sont montés des comités citoyens autour des communautés urbaines ou de la mairie, et qui ont, sur l'application de ces mesures, sur l'opérationnalité de ces mesures, eh bien, la vision citoyenne a pu être écoutée en plus. Donc moi, je regrette qu'il n'y ait pas eu symboliquement un comité citoyen national qui aurait porté ça. Bon, à l'inverse, les autres pays ne l'ont pas fait non plus.
Vous parlez aussi de cette d'enquête populaire, ou en tout cas une façon de mêler les savoirs, une forme de science participative.
Oui, alors ça commence à se développer dans les milieux mêmes de l'expertise. De plus en plus, dans certaines agences d'expertise, quand on fait la revue de littérature sur laquelle se basent les recommandations des experts, on commence à inclure de la littérature grise, c'est-à-dire une littérature non académique, non officielle, en particulier des savoirs autochtones, des savoirs vernaculaires, des savoirs de personnes qui sont des savoirs expérientiels, des agriculteurs d'un endroit, des fermiers, etc. Donc ça commence à timidement être reconnu. Il me semble que c'est une bonne démarche. Il ne s'agit pas de dire que tous les savoirs se valent, non pas. C'est reconnaître en tout cas qu'il y a une pluralité de savoirs. Et que plus on tient compte de ces divers savoirs, plus on a une description fine et complète du problème. Et qu'on prendra du coup une décision en meilleure connaissance de cause, puisqu'on connaîtra les divers aspects du problème.
Vous dites notamment qu'une la défiance peut être génératrice de savoir.
Oui, on oppose la méfiance qui polarise la situation parce que dans la méfiance, on soupçonne l'autre tout le temps. On discrédite celui qui n'est pas d'accord avec vous. En fait, c'est une façon de faire taire l'autre en invoquant toujours la vérité dont on pense qu'on est détenteur. Tandis que la défiance, c'est une attitude de défi. C'est une attitude positive qui respecte l'autre et qui le met au défi de faire preuve. Allez, vas-y, convainc-moi, fais preuve. Et donc, d'une certaine manière, c'est une attitude qui est plutôt, comme on dit en bon français aujourd'hui, d'empowerment de l'autre. C'est-à-dire de le mettre en capacité d'aller plus loin, d'argumenter et de convaincre. C'est pour ça que je pense que le défi de l'opinion publique à l'égard des scientifiques et des experts est très bon. De même qu'aujourd'hui, on est défié par les climato-dénialistes qui brandissent plein d'arguments et il s'agit pour nous de les contrecarrer, voilà. Il faut débattre, il ne faut pas discréditer simplement en disant « c'est un imbécile ».
J'introduis l'écouvillon, je tourne 5-6 fois Il va falloir faire 5 tours dans chaque narine. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, et après je mets ça là-dedans. Je laisse 1 minute. 1, 2, 3, voilà.
Ce que ça veut dire, pour moi, c'est que...
Aurélien Rousseau.
En fait, la science ne peut plus s'imposer comme la vérité dans les mêmes termes et avec les mêmes, dans les mêmes conditions qu'auparavant. Et j'allais dire, les scientifiques ont contribué à ça. En défilant, pardon d'y revenir, sur les plateaux télé en disant des choses contradictoires les uns avec les autres, mais avec l'aplomb de l'intitulé de professeur, de docteur, etc. Donc ce qui veut dire aussi qu'on doit travailler sur l'appropriation de ce que la science sait, tout en se disant que la science peut, après coup, et c'est d'ailleurs sa définition, si je reprends les fondamentaux, qu'elle peut être falsifiable, qu'on peut s'apercevoir a posteriori qu'on avait tort. Mais c'est toujours une balance bénéfice-risque, la science et la médecine en particulier. Mais on ne peut plus faire comme avant, on ne peut plus dire aux gens « croyez-nous sur parole ». Là, on a quelque chose à inventer qu'on a à ce stade pas su inventer.
Et les scientifiques qui se targuent d'avoir l'esprit critique, eh bien, ont eux-mêmes été manipulés puisqu'on a utilisé leurs propres armes, l'arme du doute, pour semer le doute dans la population sur leurs résultats. Il faut vraiment regarder au sein même du fonctionnement de la recherche scientifique aujourd'hui les raisons de la méfiance du public à l'égard des sciences. C'est-à-dire que ça vient pas du public, ça vient du fonctionnement de la science elle-même. C'est le régime actuel de recherche scientifique qui invite à la méfiance.
C'est-à-dire le financement des recherches.
Non seulement le financement de la recherche qui oriente vers les domaines les plus compétitifs. Par exemple, aujourd'hui, on investit massivement sur l'intelligence artificielle parce que c'est la clé du pouvoir pour les années à venir, et de moins en moins sur le changement climatique ou l'écologie qui, elle, ne rapporte rien que du mécontentement social, si je peux dire. Donc, c'est ça le problème. Et je pense que on a bien vu, me semble-t-il, durant la crise du Covid, que les doutes à l'égard des experts étaient fondés non pas sur une incompréhension de la propagation du virus, même il y a eu un gros effort d'explication, etc., elle était fondée sur un désaccord avec les mesures politiques adoptées et d'une certaine manière, avec l'option politique choisie.
Qu'est-ce que cette crise du Covid a changé dans le domaine de la recherche fondamentale et son financement, Bruno Canard? Est-ce que les choses ont changé? Est-ce que les leçons ont été tirées?
Alors, il y a eu certainement des leçons qui ont été tirées, c'est-à-dire on est passé d'un...
Bruno Canard, spécialiste des coronavirus.
D'un champ scientifique très négligé finalement, où on remuait de l'air en disant « un jour une pandémie va arriver ». Voilà, on n'est pas préparé, voilà. À 65 millions de virologistes, hein, du jour au lendemain. Ça, c'est le premier point. Mais de l'attention, malheureusement, je dirais, je suis désolé de dire que le milieu politique, en général, est très ignorant des sciences. Ça ne s'est pas arrangé. Très ignorant, et il est devenu méfiant des scientifiques. Je pense que les 4 ans de pandémie ont été effectivement très délétères là-dessus. Et que la parole scientifique a été globalement dévaluée sur ces 4 ans. Pour donner un exemple très pragmatique, l'eau contaminée par les polluants éternels dépassent de millions de fois la dose dans le Gard, dans d'autres endroits. Et on a des agriculteurs qui vont casser l'agence de surveillance de l'eau. Bon, c'est une preuve incroyable que le milieu scientifique a échoué à garder une crédibilité, une écoute. On n'est pas écouté. C'est aussi simple que ça, on n'est pas écouté. ça augure très très mal du futur, puisque ce passé de scientifique, je pense pas que ça soit de science en général, hein, je pense pas que ça soit une bonne idée, je pense que c'est même là où il y a de l'obscurité, c'est de là que naît le chaos, et on voit que le chaos, il arrive, en tout cas nous, d'un point de vue scientifique, on voit très bien que la situation dans les laboratoires, elle est grave. Et on mettra du temps à s'en remettre. Il n'y a pas de moyens, mais nous, les conditions sont très, très dégradées.
5 ans après, on ne sait toujours pas avec certitude l'origine du Covid-19. De nombreuses théories ont circulé. On a accusé à tort le pangolin et on est toujours à la recherche de l'animal intermédiaire. Pour reprendre les choses depuis le début, nous avons demandé à Frédéric Keck, anthropologue, de revenir avec nous sur le concept de zoonose.
Alors une zoonose, c'est une maladie infectieuse transmissible entre espèces animales. Alors on dit souvent des animaux aux humains, mais on oublie que les humains sont des animaux et que les zoonoses, effectivement, viennent des autres espèces animales vers les hommes. Et c'est pour ça que ça cause des maladies imprévisibles, parce que nous n'avons pas l'immunité pour vivre avec ces pathogènes. Et puis par ailleurs, c'est des pathogènes qui retournent aux animaux. C'est ce qu'on a vu pendant le Covid avec le vison. Il est certain que le coronavirus qui venait des chauves-souris en Chine est passé par les humains et s'est transmis au vison dans le nord de l'Europe. Ce qui a conduit à l'abattage de visons au Danemark.
Ces zoonoses, elles ont toujours existé ?
Alors, les zoonoses ont toujours existé, au sens où, du point de vue évolutif, les microbes ne connaissent pas les frontières d'espèces.
Frédéric Keck.
Le but des microbes, c'est de maximiser leurs chances de reproduction, et pour ça, il faut infecter un maximum d'espèces. Donc la question, c'est de savoir plutôt quelles sont les limites dans le franchissement de barrières d'espèces. Alors, on peut penser effectivement qu'avec la domestication animale, qu'on date au néolithique, il y a eu un grand nombre de pathogènes qui sont passés des autres espèces animales aux humains. Et on peut penser aussi qu'avec l'accélération de la domestication, il y a eu aussi une multiplication de pathogènes chez les animaux qui se transmettaient aux humains. Et bon, la véritable alerte sur ces zoonoses, c'est 1976 avec Ebola, parce que on se rend compte que tous les efforts qu'on a fait pour vacciner les humains échoue s'il y a des nouveaux agents infectieux qui viennent d'autres espèces, comme Ebola qui venait des primates. Il est certain que le virus qui a causé la pandémie de Covid venait des chauves-souris, puisque la séquence est très analogue à des coronavirus qui circulaient chez les chauves-souris et qui étaient étudiés depuis 2003, depuis la crise du SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère. La question, c'est de savoir comment est-ce que ce virus est passé d'une chauve-souris aux humains ?
Alors, les gens peuvent se demander, en général, qu'est-ce que le changement climatique a à voir dans l'apparition des virus ?
Bruno Canard.
Je vais vous donner un exemple très simple. Les virus sont véhiculés par d'autres espèces d'animaux. Par exemple, les virus qui déciment en ce moment les ovins et fièvre hémorragique, la fièvre de catarrhale. Ils sont véhiculés par des petits moucherons. Et ces moucherons sont répartis sur des aires bien distinctes. Et vous avez une population de moucherons qui est infectée par un virus. Mais si le changement climatique permet que l'aire de répartition à quelques demi-degrés, des fois un degré de plus de changement, cette aire augmente, elle va croiser et se superposer à l'aire de répartition de notre petit moucheron, son frère jumeau. Et ce frère jumeau, peut-être que lui, il va pouvoir se faire infecter par le virus. Donc, à ce moment-là, le virus, il va passer de l'aire de répartition du premier moucheron à l'aire de répartition du premier plus du second. Or, le second, si lui, son aire de répartition, elle est 1000 fois plus grande et qu'elle va jusqu'au pôle Nord alors qu'elle démarrait depuis la Méditerranée, l'autre s'arrêtait à la Méditerranée, ben on se retrouve effectivement avec des virus qui, tout d'un coup, font un saut qui fait des milliers et des milliers de kilomètres. Et donc, à ce moment-là, le virus, un petit changement de température, a permis de faire un saut énorme dans la répartition, et donc dans le transport du virus. Ensuite, c'est les facteurs anthropiques qui font que on se retrouve de plus en plus exposé à des virus. Premièrement, on colonise de plus en plus l'espace naturel et on va de plus en plus loin dans la forêt. Et donc, si vous déforestez et que vous chassez les animaux parce qu'il y a les tronçonneuses qui arrivent, les animaux ils s'en vont, ils ont des nouveaux contacts avec d'autres animaux, ils ont une autre répartition et finalement, les virus ils suivent. Il y a un troisième point aussi, c'est on voyage de plus en plus. On est capable aussi de faire le tour de la Terre en 48 heures et donc de voyager avec les virus. Et donc, on se retrouve avec des probabilités de pandémie beaucoup plus élevées. Alors, l'origine du virus, elle peut très bien découler de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que des gens se sont fait infecter par ce virus qui est présent en Asie du Sud-Est chez des chauves-souris et soit des gens, soit un animal intermédiaire qui a été pris et transporté au marché de Wuhan. Et à partir de là, l'animal a joué son rôle d'amplificateur, a infecté quelqu'un, et finalement, l'épidémie est partie. Il y a une deuxième hypothèse qui a été très rapidement négligée, et puis finalement, qui a été remise sur la sellette, c'est que personne n'a retrouvé d'animal intermédiaire, ni personne n'a pu expliquer comment le virus est parti du sud-est asiatique et est arrivé à Wuhan, donc plus de 1000 km de là, et a créé une pandémie à partir de Wuhan.
Parce qu'on me posait beaucoup la question, mais ça se passe à Wuhan, il y a un laboratoire, vous pensez que ça vient du labo? Et je disais non, il y a quand même plus de probabilité que ça vienne d'un marché que d'un labo. Parce que c'est ce que me disaient les gens avec qui je travaillais à Hong Kong. Et lui, il me disait, non, quand on regarde la séquence, ça vient du labo, c'est sûr. Moi, je ne peux pas savoir.
On ne peut pas savoir.
Non, mais il y a de plus en plus de gens en France qui pensent que ça vient du labo.
Et en Chine?
Ah ben, en Chine, ils disent que ça vient du marché. Et aux États-Unis, c'est trop divisé, parce qu'aux États-Unis, comme ça, une thèse qui a été soutenue par Trump, on ne pouvait pas dire que ça venait du labo, parce que ça faisait complotiste.
Ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, les scientifiques chinois, après avoir eu le SARS-CoV-1, sont revenus collecter dans ces grottes au sud-est asiatique des virus, en se disant, si jamais il y a le SARS-CoV-1, peut-être qu'il y a le SARS-CoV-2, le 3, le 4, le 5. Et donc, ils ont collecté des virus et ils ont fait plusieurs voyages. Et donc, le SARS-CoV-2 pourrait très bien avoir résulté de ces programmes de recherche, puisque, effectivement, entre-temps, sont sortis des programmes de recherche qui avaient été financés entre les Américains et les Chinois, où ils décrivaient précisément qu'ils allaient faire ce genre de manip. C'est-à-dire, ils allaient collecter ces virus, ils allaient ensuite examiner quelles étaient les caractéristiques moléculaires de leur spike pour savoir si elle allait infecter des cellules humaines ou pas. C'était écrit noir sur blanc dans leur projet de recherche. Donc comment on fait ça? On prend ces virus et on les met en culture sur des cellules humaines. Et si jamais on arrive à avoir effectivement une infection productive, on dit oui, on est arrivé à lui faire passer la barrière. Mais le problème, c'est qu'on a créé effectivement un problème. On a créé un virus qui a un potentiel pandémique. Donc, est-ce qu'ils l'ont vraiment fait? Et est-ce qu'à ce moment-là, le contrôle leur a échappé? Voilà, c'est une question qui est légitime de se poser. Donc là, c'est exactement les deux possibilités qui existent. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'éléments qui soient déterminants pour l'une ou l'autre des hypothèses. C'est-à-dire un animal qui soit arrivé au marché de Wuhan et qui est infecté des gens au marché, que la pandémie ait démarré comme ça, ou une collecte et un essai malencontreux de comprendre comment le virus pouvait passer à l'homme.
D'après les chiffres dont on dispose, le Covid a causé en France la mort de 70 000 personnes la première année, en 2020, 60 000 en 2021 et 40 000 en 2022. 170 000 personnes au total. Parmi ceux qui ont perdu des proches, qui n'ont pas pu les enterrer dignement, comme ça a été le cas dans les premiers temps de la crise, ils sont nombreux à réclamer un hommage national pour les victimes du Covid. C'est le cas de Julie Grasset, présidente de l'association Cœur Vide 19.
J'ai perdu mon papa le 25 mars 2020 lors de la première vague de la Covid-19 en France, dans des conditions dramatiques comme beaucoup d'autres familles. Je n'ai pas pu accompagner mon père dans ses derniers moments. Mon papa n'a pas été pris en charge en milieu hospitalier, bien qu'il avait des facteurs aggravants, des comorbidités comme on dit. Et ensuite, tout s'est enchaîné très vite, selon le protocole funéraire que beaucoup de familles ont dû éprouver. Mon père a été déclaré décédé à 7h du matin à son domicile. Il a été mis dans une bâche sans toilette funéraire, puis mis en bière immédiatement. Et ensuite, il a été transféré au centre funéraire de Châlons-en-Champagne, là où il résidait. Dans cet intervalle de temps, nous sommes prévenus, mon frère et moi, qu'à 9h du matin. Et nous n'avons pas pu intervenir dans aucun des choix. Le cercueil, être présent lors de la crémation. Quand, en février, Édouard Philippe annonce l'interdiction des obsèques, je pense que ça ne voulait pas dire grand-chose, mais quand vous l'éprouvez et quand vous êtes empêché, littéralement empêché, d'être auprès d'un de vos proches à la fin de sa vie, c'est terrible. C'est terrible pour la personne qui part, parce qu'elle n'a même pas pu avoir un dernier adieu de la part des gens qu'il aime, que vous aussi, en tant qu'enfant, pour ma part, vous ne pouvez pas dire au revoir à votre père, vous ne pouvez même pas le voir une dernière fois. Donc j'ai créé cette association pour sensibiliser en réalité sur la manière dont la mort a été traitée pendant le temps de cette pandémie. Le fait que les défunts étaient finalement réduits à des chiffres, à des statistiques, et sauf que derrière c'était des êtres humains qui n'ont pas pu donc bénéficier d'un dernier adieu, de respect par exemple de leur dernière volonté, et auxquels en fait on n'a pas rendu hommage.
On a plus de 200 000 morts du Covid, dont, moi c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, dont toute une partie sont des morts sans visage.
Aurélien Rousseau.
Qu'on n'a même jamais revu, qu'on n'a pas enterré. Est-ce que du coup, a posteriori, on se dit, et d'ailleurs on a relâché ces contraintes-là ? Oui, parce que dans la balance bénéfice-risque, le traumatisme presque anthropologique que constitue le fait de ne pas voir ses morts est trop violent, donc voilà... Sur le coup, et c'est là que c'est pour ça que je reviens souvent sur ce terme, le sacro-saint principe de précaution qui est censé être notre phare dans la pensée quand on gère une crise, typiquement, on l'a à des moments, je pense, appliqué, mais il nous a fait prendre des mesures qui étaient trop radicales et trop violentes.
Il y a beaucoup de gens qui ont parlé de cette difficulté à ne pas voir les visages des proches. Avant les enterrements.
Laetitia Atlani, anthropologue.
Peut-être que, étant au conseil scientifique, j'ai réussi à pousser ce point-là. Les religieux ont été très sensibles à cette question-là. Et quand j'ai essayé de comprendre un peu pourquoi ça bloquait au départ, ce qui m'a été raconté et dit, qui était que, en particulier, les entreprises de pompes funèbres, très marquées par l'épidémie d'Ebola, ont mis en œuvre les mesures les plus strictes, par sécurité. Et si vous vous souvenez, le virus Ebola a une spécificité qui est que les corps morts sont infectieux. Et que donc, les procédures de mise en bière ont été développées pour répondre aux spécificités d'Ebola. Alors que le virus Covid-19 n'a rien à voir avec Ebola, mais on était encore une fois dans les tout premiers temps de l'épidémie Covid-19. Et donc, en particulier du côté des entreprises des pompes funèbres, il y a eu la volonté de protéger leur personnel, ce qu'on peut comprendre aussi. Et donc, cette décision d'un transfert très rapide des corps dans des housses et leur fermeture. Très vite, on a réussi justement à faire réviser cette décision pour qu'au moins la housse soit ouverte de manière à ce que les familles puissent voir les visages avant une fermeture définitive. Les religieux, en effet, ont été essentielles pour relayer cette demande, mais beaucoup de gens, par exemple, en réa, des professionnels en réa, qui avaient affaire aux familles, qui étaient en lien direct avec les familles et qui voyaient la souffrance extrême que cette fermeture des housses pouvait provoquer, avaient aussi relayé ce type de demande sans forcément être entendus.
Votre père est mort le matin, à 7h du matin, et il y a eu une crémation sans personne.
Oui, tout à fait. Dans le cas de
le jour même.
Mon père, c'est effectivement un peu particulier. C'est aussi pour ça que j'ai aussi un combat personnel pour ma part sur le plan de la justice, parce que certes, les obsèques ont été interdites, les toilettes funéraires, le respect des dernières volontés sur le plan... Par exemple, de la religiosité était très restreinte, les cérémonies étaient interdites. En revanche, il n'y a rien dans les protocoles qui, pour les défunts ou en tout cas les personnes ayant fait le choix de la crémation, qui ordonnait le fait que cette crémation ait lieu instamment après le décès. Et donc, dans le cas de mon papa, effectivement, il est déclaré décédé à 7h du matin à son domicile. Il sera transféré au centre funéraire de Châlons-en-Champagne. Moi, je serai avisée à 9h du matin. Je réussirai à joindre le centre funéraire autour de 11h30, midi. Et donc, dans cet intervalle, effectivement, qui peut paraître long, je prends attache avec ma famille pour voir comment on peut s'organiser pour, malgré tout, aller auprès de lui. Puisqu'effectivement, assez rapidement, je reçois un document qui m'explique qu'une crémation est prévue... autour de 13h, j'habite en région parisienne, mon père est du côté de Châlons-en-Champagne, j'ai environ 2 heures de route. Et donc, je leur demande d'attendre, de si possible, nous laisser le temps d'arriver. Et malheureusement, quand je réussis à voir un des agents, il est à peu près de mémoire midi 40, la personne me dit assez froidement qu'il n'est pas la peine de me déplacer, que de toute façon, les crématoriums sont fermés et que de toute façon, la crémation a déjà commencé. Voilà. Et donc là, je crois que j'ai eu comme une forme de sidération et je pense après un énorme traumatisme. Et effectivement, il est interdit d'envoyer un défunt à la crémation en dessous d'un délai de 24 heures. Pourquoi ? Parce qu'il faut s'assurer derrière des dernières volontés, d'une part, et d'autre part, parce que notamment dans le cas où on pourrait demander des expertises médico-légales, il faut laisser le temps au potentiellement à la justice et au corps médical de procéder à ces investigations. Et donc aujourd'hui, je n'ai toujours pas de réponse, hormis, je pense, la peur qui a gagné les esprits, qui a conduit à cette crémation immédiate, et qui donc nous a empêchés d'être auprès de notre père, et qui est un traumatisme infini et irréparable.
En fait, les rituels, c'est très important pour maintenir un sentiment d'existence, de lien.
Philippe Nuss.
Peut-être un exemple intéressant. À un moment donné, dans le service de maladies infectieuses, il y avait un étage où on accompagnait les personnes en fin de vie. Et on se posait la question de savoir si ce serait bien que les proches puissent communiquer avec la personne et avec les équipes à travers des écrans. Et donc, on a fait plusieurs tentatives de groupe via Teams, etc. On s'est rendu compte que le fait d'être ensemble, sans pouvoir se toucher, sans espace interpersonnel, était beaucoup moins bien que le téléphone. Et on a arrêté de faire des visios pour faire des entretiens téléphoniques à plusieurs. Parce qu'en fait, l'imaginaire peut, dans le fond, élaborer un état supportable, tandis que la vision d'une personne vis-à-vis de laquelle on ne peut plus rien faire, c'est très cruel. Et donc, pour en revenir à la question donc, des rituels, je pense qu'il faut pouvoir faire quelque chose en vrai. À faire soi, il y a quelque chose à faire et pas rien faire. Il y a besoin d'une matérialité de l'absence.
C'est ça l'objet de votre association, Julie Grasset, c'est d'obtenir un moment pour les victimes, un moment officiel.
Alors déjà, on est plusieurs associations à effectivement demander un hommage effectivement national. Effectivement, on le sait aujourd'hui, sous le président Macron, la dimension mémorielle est importante. Hein. On sait qu'il y a à peu près, je pense, un peu plus d'une vingtaine d'hommages nationaux. En revanche, on est surpris effectivement de voir que pour les victimes de la Covid-19, il ne s'est rien passé. Donc effectivement, la première mission, le premier objectif de l'association et d'autres, que je partage aussi avec d'autres, c'est l'organisation d'un hommage national, en tout cas que la dimension mémorielle prenne sa place dans cette crise.
Dans cette épidémie qui n'en finit jamais, il y a aussi des conséquences médicales qui ont émergé au fil du temps. Le Covid long, bien sûr, mais aussi le risque de séquelles à plus long terme qui augmenterait à chaque nouvelle infection. Christian Lehmann, médecin, n'en décolère pas.
Le premier Covid long que j'ai vu, je l'ai vu en avril 2020, à un moment où personne ne savait que le Covid pouvait entraîner des séquelles. Donc j'ai eu très vite conscience que au-delà de la phase aiguë du Covid et du risque mortel respiratoire ou cardiaque ou autre, il y avait ensuite le risque d'avoir des dégradations. Et ça a été repoussé pendant longtemps et il a fallu souvent, par exemple en Angleterre, c'était souvent des femmes jeunes qui chopaient ça et c'était considéré comme un truc un peu hystérique, excusez-moi. Et puis quand il y a eu des médecins hommes qui ont été touchés, des types connus, des professeurs de 60 ans qui disaient « Quand je décide que je vais me promener pendant 4 minutes autour de ma maison et du pâté de maison, je prends 2 jours pour m'y faire et j'ai besoin de 2 jours pour revenir. » Là, quand ça a été des hommes, on s'est dit « Ah, c'est peut-être pas purement psychologique, c'est peut-être pas purement hystérique. » Mais on continue à avoir une forme de déni vis-à-vis du Covid long, parce que ne pas nier le Covid long, ça voudrait dire faire tout pour protéger les gens et éviter qu'ils fassent un Covid. Ça voudrait dire, quand vous avez un Covid, on vous fait une PCR pour savoir ce que vous avez et on vous isole vraiment à la maison pendant 8 jours et pas, comme l'ont dit Bruno Le Maire ou autre, peut-être qu'au bout de 2 jours, vous pouvez rentrer travailler. Non, parce que le virus, il n'a pas changé. Il est toujours aussi contaminant aussi longtemps. Simplement, le système capitaliste a décidé qu'on peut renvoyer des gens malades, en infecter d'autres au boulot, à partir du moment où l'économie va tourner.
Apparemment, le fait de se faire réinfecter régulièrement par le Covid, ça peut entraîner d'autres pathologies, notamment une prédisposition au diabète ou aux maladies cardiovasculaires, voire même des atteintes neurologiques.
Alors, ce qu'on a appris avec la Covid, c'est que ce virus, le SARS-CoV-2, n'est pas un virus respiratoire comme les autres.
Arnaud Fontanet.
Qu'il est capable de toucher d'autres organes que simplement les poumons. Et il y a beaucoup de types de séquelles qui sont associées à l'infection. Il y a ce qu'on a mis ensemble sous le terme de Covid long, qui regroupe des troubles plutôt du type fatigue, douleurs musculaires, difficultés respiratoires à l'effort, troubles de la concentration, troubles de la mémoire. Ça touchait, fin 2022, 4% de la population adulte française. C'est quand même important. La bonne nouvelle, c'est que c'est des symptômes qui s'atténuent avec le temps, que les formes les plus graves avaient été vues chez les personnes infectées en mars 2020, alors que c'était la première infection, que la vaccination protège, hein, divise par 2 le risque de faire ces formes longues de Covid. Mais il y a aussi d'autres complications. On a vu notamment que dans l'année qui suivait une infection par le SARS-CoV-2, y compris sur des formes bénignes, vous aviez une augmentation, par exemple, de 30% de faire une complication cardiovasculaire qui peut être du type infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, thrombophlébite, embolie pulmonaire. Alors, chez des gens jeunes, une augmentation de 30%, c'est pas tant que ça, parce que le risque basal est très faible. Chez des personnes plus âgées, 30%, ça fait beaucoup. Puis surtout, quand ça touche 4% de la population, ça a un vrai impact. Donc il y a, après chaque infection, la possibilité de réactiver ce type de séquelles long terme. Et donc, ce n'est pas complètement anodin de faire une nouvelle infection par la Covid.
Et on continue encore aujourd'hui à faire semblant que la pandémie est terminée, alors qu'elle n'est pas terminée, qu'il y a des gens qui ont des Covid longs et qui sont infectés, et que les études médicales qui sortent montrent de plus en plus qu'à chaque fois que vous faites un Covid, vous avez un petit risque d'avoir des problèmes neurologiques, des problèmes cardiovasculaires, des problèmes endocriniens, un diabète, etc. Et donc, on laisse les gens s'infecter peut-être 3 ou 4 fois par an. On ne leur fait quasiment plus de tests. Et donc, on leur dit, vous avez un virus, c'est peut-être la grippe, etc. Mais on les laisse diminuer leur capacité rénale, leur capacité endocrinienne, leur capacité cardiaque, leur capacité respiratoire. Et on commence à voir une diminution de la quantité de vie des gens. Et on va voir aussi une diminution de leur qualité de vie. On a une pandémie qui est toujours là. Mais comme on a moins de gens qui étouffent d'un seul coup, on laisse les gens se réinfecter avec un virus qui, malheureusement, entraîne des petits dégâts cumulatifs.
Pour travailler beaucoup sur différentes crises, et pas qu'en France, j'ai beaucoup travaillé à l'international, y compris avec les Nations Unies, par exemple, et pour connaître l'histoire des épidémies, il m'a semblé très très important, et ça dès mars 2020,
Laetitia Atleni,
de collecter les traces et mémoires de la pandémie au le plus tôt possible. Et donc, j'ai monté d'abord un projet qui est devenu un programme et qui est devenu un institut. 2 objectifs dès le départ. Le premier était de transmettre aux générations futures ce qu'on avait vécu, parce qu'il me semblait évident, dès mars, qu'on était en train de vivre ce que j'ai appelé à l'époque une rupture anthropologique, avec ce confinement qui a isolé la moitié de la planète du jour au lendemain, et qu'il fallait absolument qu'on puisse transmettre ce qu'on était en train de vivre aux générations futures. Et qu'il fallait absolument faire ça rapidement avant d'oublier. Et donc, c'est le premier objectif, collecter pour transmettre. Deuxième objectif, c'est aussi que finalement, ces expériences, tant collectives qu'individuelles, nourrissent à la fois la recherche, la science, mais aussi les politiques publiques, de manière à pouvoir mieux préparer et répondre aux crises sanitaires à venir. Sanitaires ou non sanitaire, on pense en particulier au danger aujourd'hui de la guerre qui approche aux portes de l'Europe. Et ce type de réflexion, il est vrai pour les épidémies, il est vrai pour les crises sanitaires, en fait, il est vrai pour les crises plus largement. On espère à l'Institut Covid-19 Ad Memoriam pouvoir aussi contribuer à se préparer.
Merci à Héloïse Langlois, Frédéric Keck, Arnaud Fontanet, Nicolas Mario, Jean-François Delfrécy, Laetitia Atleni, Julie Grasset, Christian Lehmann, Philippe Nuss, Aurélien Rousseau, Bruno Canard, Bernadette Banceau de Vincent, Mathias Girel, François Crémieux et Daniel Benamouzing. Merci également à Caroline Peragu de l'APHM. Prise de son Michael Simon et Jean-Benoît Tétu, mixage Benjamin Vignal, documentation Annelise Signoret, archivina Arnaud Plançon, chargée de programme Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales, coordination Emmanuel Laurentin. C'était Covid-19, une pandémie sans fin, un documentaire de Christelle Le Polothèque réalisé par Véronique Samouilov.